France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'intime nous occupe cette semaine, et avec lui toutes les questions qui concernent la notion de pudeur. Ce matin, des vœux et des aveux, ou les pratiques de confession. J'ai appris beaucoup de choses en préparant cette émission, grâce à l'équipe d'Avec Philosophie, bien sûr, toujours alerte et précise, et grâce à nos invités qui, en amont de l'émission, ont bien posé les termes du problème. En effet, le mot « confession » ne renvoie pas entièrement à ce que l'on croit à première vue, c'est-à-dire à des aveux faits à une personne d'autorité, en général d'autorité religieuse. Pour Augustin d'Hippone, le saint Augustin des chrétiens, qui a vécu à la charnière du 4e et du 5e siècle et qui fut l'auteur des fameuses confessions, l'enjeu est bien plus large. Il s'agit certes de sortir du mensonge, mais le mensonge pour Augustin, c'est l'ensemble de cet état où l'on est loin de Dieu et de sa vérité. Ce n'est donc pas seulement un mensonge sur des faits commis ou une occultation, quelque chose qui serait enfin avoué et ainsi corrigé. C'est plus profond. Il s'agit aussi d'affirmer sa foi parmi les hommes, de l'exprimer ouvertement, publiquement, et là, on s'approche du mot « profession de foi ». Enfin, se confesser, c'est parler à Dieu lui-même, lui dire qu'on sait qu'il sait tout de nous. Il n'empêche, l'autorité sociale d'un être humain, ayant grâce à la confession accès à nos pensées les plus intimes, est quand même présente, et nous en parlerons abondamment ce matin. Car la culture catholique a développé en Occident, plus ou moins fortement selon les périodes historiques, le phénomène des confesseurs religieux, mais aussi des directeurs de conscience. Leur rôle social est très important et, nous le verrons, peut-être pas uniquement normatif et culpabilisant. Bienvenue dans un peu de complexité autour d'une notion, la confession, qu'on pourrait croire simple. Bonjour Anne de Saxé.
Bonjour.
Vous êtes l'attachée de recherche et d'enseignement à la Sorbonne, spécialiste de philosophie médiévale, et en particulier d'Augustin, dont vous avez exploré le rapport aux affects dans un ouvrage paru en 2024 chez Vrin. Et bonjour Caroline Muller.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Vous avez publié Au plus près des âmes et des corps, aux Presses universitaires de France en 2013. Vous nous parlerez ce matin des pratiques de confession à l'époque moderne. Alors si j'ai bien compris, quelque chose dans ce domaine a pris de l'ampleur lors de la contre-réforme et au XVIIe siècle. Puis, ça s'est un peu calmé au XVIIIe et c'est revenu en force avec un nouvel élan au XIXe siècle. Dans les bonnes familles catholiques, il était de bon ton d'installer, pas trop loin de la famille, des directeurs de conscience. On va décrypter tout cela. Je vous propose de poser les enjeux d'abord dans les termes qui étaient ceux du philosophe du XXe siècle, Michel Foucault, ce qui ne veut pas dire que nous nous tiendrons strictement à son analyse à lui des pratiques de confession.
Dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. Il y a tout de même peu, je crois, de religions, il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul. Enfin, il y a tout de même peu de religions qui imposent comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence, de raconter ses fautes, et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire, dans les milieux catholiques, enfin moi quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la Seconde Guerre, là, la confession une fois par semaine était monnaie courante, avec examen de conscience, et bien sûr, référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même une espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité. Et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée.
Michel Foucault, philosophe, s'exprimait là sur France Culture en 1977. Caroline Muller, y a-t-il en effet une singularité absolue, il dit, du christianisme, en vérité du catholicisme, pour ce qui concerne cette obligation récurrente, vraiment quasi constante de se confesser à un homme d'église.
Il faudrait d'abord discuter ce que c'est que cette récurrence et cette constance, parce qu'en réalité, l'obligation n'est pas hebdomadaire. Hein. En réalité, un catholique, il est obligé de se confesser de communion une fois par an. Donc, déjà, on peut discuter un
petit
peu. Il y a
un texte qui dit cela.
Oui, tout à fait, c'est le Concile de Latran, en fait, le quatrième Concile du Latran, qui instaure cette obligation, hein, donc on est au XIIIe siècle, cette obligation, une fois l'an, de confesser ses péchés au curé de sa paroisse, et ensuite de communier. Mais donc, quand Foucault dit il y a cette obligation hebdomadaire de se confesser, en réalité, il grossit un petit peu le trait.
Et puis, il y a la question des protestants. Oui. Comment ça se passe chez eux? C'est fini? On respecte pas le texte du Concile de Latran?
Alors non, mais chez les protestants, la discussion est tout à fait différente, puisque précisément, un des problèmes du protestantisme, c'est de discuter le passage par l'autorité du prêtre ou d'un tiers dans l'accès à Dieu. Donc on va pas obliger les gens à passer par un confesseur pour avoir accès à Dieu, si l'idée c'est de travailler un accès direct à Dieu.
Donc il y a quand même une pratique de confession, mais alors pour le coup, si j'ose dire, vraiment intime, sans présence d'un être distinct de moi qui la recueille, c'est ça ?
En tout cas, il n'y a pas la même formalisation et le même cérémonial de confession et d'aveu. Il n'y a pas le formulaire, mais par contre, il y a bien sûr une pratique pastorale d'aveu et de discussion de soi. Ça, c'est clair. Mais elle ne prend pas la forme d'un sacrement. La confession, dans le catholicisme, c'est un sacrement. C'est, aujourd'hui, on l'appelle le sacrement de réconciliation. Par un moment, on l'appelle le sacrement de pénitence. Donc, ça n'a pas du tout la même valeur dans l'économie générale de ce que c'est que le pardon, le péché dans le catholicisme. On ne peut pas, si on est catholique et qu'on veut être tranquille avec sa conscience et son salut, s'abstenir de se confesser trop longuement. Sinon, ça vous met en danger sur le plan spirituel.
Augustin écrit bien plus tôt que le Concile de Latran, toute fin du IVe siècle, pour les confessions. À ce moment-là, Anne de Saxe, qu'est-ce que ça veut dire confession pour Augustin ?
Alors, c'est une très intéressante question et un peu subtile, puisque en fait, Augustin hérite d'un mot qui a déjà une relativement longue histoire derrière lui. C'est un mot qui vient de la langue romaine et qui un mot juridique et qui signifie l'aveu de la faute. Et en fait, au moment des persécutions chrétiennes, il y a un renversement de la signification du mot qui s'opère, puisque les chrétiens, précisément, sont condamnés s'ils confessent une certaine faute qui est d'être chrétien. Il y a par exemple un texte de Tertullien qui dit en substance « Habituellement, on torture les gens pour qu'ils avouent, et concernant les chrétiens, on les torture pour qu'ils n'avouent pas qu'ils sont chrétiens. » Et c'est exactement la faute qu'on leur reproche. Donc c'est sous cette période de persécution que le mot va revêtir un deuxième sens, puisque les chrétiens vont faire de l'aveu de leur faute une glorification, un moyen de dire qu'ils sont chrétiens et une fierté.
Donc, publiquement, il y a
publiquement,
quelque chose de...
Oui, une sorte de profession de foi voilà. Publique et qui est aussi une manière de rendre gloire à Dieu. Et donc cette réalité historique, ce renversement historique du sens du mot, en fait rejoint le sens biblique du mot... Alors, qui a été traduit dans le latin par le mot confession, justement, et qui unit à chaque fois l'aveu de la faute et l'action de grâce ou la louange envers Dieu.
La grâce au sens de Paul dans l'Épître aux Romains
Non, action de grâce au sens de remerciement. C'est-à-dire que vous avez dans les textes bibliques l'idée que celui qui avoue ses fautes, en même temps, remercie Dieu de lui pardonner. Et c'est ce double sens du mot qui existe dans les confessions d'Augustin. C'est-à-dire, Augustin a théorisé dans ce livre, les confessions, le fait qu'il y ait une coïncidence dans le mot entre la reconnaissance de sa faute et la reconnaissance d'un bien supérieur.
Il y a quelques années, une tentative de traduire les confessions d'Augustin par les aveux. Je crois que c'était
oui.
Frédéric Boyer, n'est-ce
oui,
pas, qui traduit dans ce sens. Mais si je vous suis bien, est-ce que... Vous considérez que c'était finalement un peu réducteur ?
Alors, en fait, c'est une question ancienne chez les Augustiniens. Ça fait bien 100 ans qu'elle est débattue, de la traduction exacte du terme « confession ». Et c'est vrai que moi, je pense que je préfère la translittération et d'appeler « confessiones » simplement « les confessions », parce qu'il y a, au moins deux sens. Il y a ces deux sens-là. Ce qu'Augustin appelle « confession du péché », et confession de louange. Et lui, quand il utilise les mots, il entend les deux, en fait.
Donc, confession est quand même plus large que notre mot à nous d'aveu.
Que aveu, oui.
Entendu. Alors, la question du sexe, qui est la sexualité, concupiscence, dit aussi Michel Foucault dans ce qu'on vient d'entendre, péché de chair, aveu sexuel, voilà les mots qu'il a employés dans l'archive entendue à l'instant. Vous êtes d'accord, Caroline Muller, que c'est le foyer du péché, quoi. C'est vraiment le cœur des enjeux. Ou bien c'est encore une surinterprétation?
Alors, je vous mettais dans une position un peu délicate d'avoir à expliquer ce que Foucault a bien dit ou mal dit, mais allons-y tout de même. Oui, alors la difficulté, effectivement, c'est que la confession a beaucoup été tirée du côté de l'aveu, des aveux de la chair, de la sexualité, etc. Or, la sexualité n'est qu'un aspect parmi d'autres de ce que l'on va confesser, de ce que l'on va observer. Il y a bien d'autres péchés qui sont aussi très examinés parce que très graves, et un en particulier fait l'objet de beaucoup de discussions au XIXe siècle, mais aussi avant, c'est l'orgueil. Parce que le risque de la confession et de l'aveu, c'est le plaisir de soi, c'est de parler de soi. Et là, on retrouve un autre péché majeur, en fait, en régime catholique. Donc, la sexualité, certes, c'est très important, ne serait-ce que parce que la confession est un espace protégé par le secret. Donc, si on veut évoquer des difficultés liées à la sexualité, c'est un espace qui peut être investi. On est sûr que ce qui est dit au confessionnal ou au directeur de conscience ne sera pas ébruité. Donc ça, c'est très précieux pour un certain nombre de gens. Mais si vous lisez, par exemple, les formulaires qui vous aident à préparer votre examen, à préparer votre passage au confessionnal, la question de la concupiscence, c'est un sujet parmi d'autres. Donc il faut...
Voilà. Entendu. Alors, si vous parlez de péché d'orgueil... Évidemment, ça renvoie assez vite à un enjeu augustinien qui est la connaissance de notre misère, il n'y a pas énormément de grandeur. Alors, c'est peut-être une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire, Anne de Saxé, mais enfin, l'orgueil, à quoi ça s'oppose et qu'est-ce qu'il faut à l'inverse valoriser pour Augustin déjà? N'est-ce pas, en effet, le sens de notre misère lié au péché originel?
Alors oui, tout à fait, ça peut être une manière de définir ce péché d'orgueil. Effectivement, il y a de nombreux textes médiévaux, notamment, où le problème de la connaissance de soi est rattaché immédiatement au problème de l'orgueil. Je pense à des textes d'Abélard, notamment. Mais Augustin a une définition un peu différente de la source même du péché,
oui,
mais qui recoupe ce que disait Caroline Muller. C'est le mensonge. Alors, c'est dans un texte de la Cité de Dieu, notamment au livre 14 de la Cité de Dieu, qui est un des grands best-sellers augustiniens, et il dit, voilà, en fait, la définition même du péché, c'est le mensonge, parce que vivre selon le péché, c'est vivre selon soi-même. Et là est le mensonge, parce que vivre selon soi-même ne nous rendra pas heureux, or, nous désirons être heureux. Donc nous mentons à nous-mêmes, puisque notre désir profond, c'est un désir de bonheur, mais quand nous cherchons ce bonheur en nous-mêmes, nous vivons de telle manière que ça ne sera pas trouvable, on n'obtiendra pas ce bonheur.
Voulez-vous dire que notre orgueil, il faut précisément s'y confronter, voir à quel point il nous obsède, ne pas se mentir à son sujet, et c'est seulement en le rendant ainsi quasi extérieur, comme un objet dont on parle à son confesseur, qu'on peut le combattre. Le mensonge, c'est de ne pas voir et de ne pas dire et de ne pas reconnaître notre orgueil.
Alors, j'aurais peut-être pas formulé exactement comme ça, puisque Augustin n'a pas de confesseur.
Oui,
puisqu'il est largement avant.
Oui. Et vous voyez ce que je veux dire dans la démarche de dire, parce que quand même, si j'ose dire, il se confesse dans ce livre magnifique,
oui.
Les confessions.
Alors, oui, alors.
À tout le monde.
Il se confesse d'abord à Dieu.
Oui.
C'est tout peut-être la beauté la plus particulière de ce livre, c'est que c'est un livre adressé à la seconde personne, à Dieu. C'est un livre qui est un dialogue entre Dieu et Augustin, et qui est public. Et d'ailleurs, Augustin s'interroge de savoir pourquoi il raconte à Dieu ce que Dieu sait déjà. Pourquoi raconter à Dieu ce que Dieu sait déjà? Précisément, c'est ça la confession. C'est de faire la vérité sur soi.
Faire
ce qu'Augustin appelle faire la vérité. C'est-à-dire se mettre soi-même sous la lumière.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez pour Augustin? Le péché de chair, la concupiscence, dit Foucault, le désir sexuel, est-il le foyer du mal?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, je ne peux pas dire que saint Augustin n'a rien à voir avec cette question, puisque la concupiscence, c'est un des concepts fondamentaux d'Augustin. Oui. Et que, bien sûr, il est connu à juste titre aussi pour sa réflexion sur la sexualité, notamment dans des textes sur le mariage. Il y a quand même quelque chose d'amusant, c'est que dans le texte des Confessions, le péché, enfin le récit que prend Augustin, qui incarne le péché, ça n'a rien à voir avec un problème de sexualité. Il y a des textes dans les Confessions où il parle de sexualité et de ses problèmes. Il y a même au livre 10, puisqu'il y a 13 livres dans les Confessions, au livre 10, un passage où Augustin avoue, lui, évêque d'Hippone, qui écrit de façon publique, avoue qu'à l'heure actuelle, il a encore des problèmes de sexualité, puisqu'il a des rêves, et il n'est pas sûr que certains rêves érotiques soient péchés ou non péchés. Donc, il y a une description assez audacieuse à nos yeux, je pense. On imagine assez peu un évêque écrivant un texte semblable aujourd'hui. Donc,
vous croyez?
Peut-être pas, je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le texte qu'Augustin met en avant pour décrire le péché, c'est un acte totalement dérisoire, c'est le texte du vol des poires.
Oui, alors je suis contente que vous l'abordiez tout de suite, parce que franchement, Augustin était marié à Carthage. Alors, Augustin a eu une sexualité.
Oui, il était
concubin,
mais il vivait
d'accord.
En concubinage.
Si je puis me permettre, c'est presque encore pire d'un point de vue chrétien, non?
Non, alors, c'est le concubinage romain, c'est-à-dire
oui.
Augustin, c'est
ah, oui,
un
d'accord. Romain. Voilà, il était romain, païen, ayant eu un enfant avec une femme à Carthage, professeur de rhétorique. Oui. Il a cherché beaucoup de choses dans sa vie philosophiquement, y compris des sagesses qu'on ne connaît plus tellement, le manichéisme du Perse Mani, l'opposition du bien et du mal. Il a été sceptique pour oui. se guérir d'ailleurs de son manichéisme. Et puis finalement, il y a la conversion au christianisme. Il peut pas nous raconter quand même qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Alors, je suis un peu troublée, on parle tout le temps de ce texte sur le vol de poires, qu'il s'en veut beaucoup. Enfin, c'est vraiment très grave d'avoir volé des poires par rapport à avoir eu une sexualité extrêmement libre.
Alors, d'abord, la sexualité extrêmement libre d'Augustin, il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas, c'est-à-dire il a vécu en concubinage avec la même femme pendant 9 années, il aimait cette femme, il a eu un fils, il dit c'était pas prévu, mais une fois qu'il était là, on était très heureux de l'avoir, il aimait énormément son fils. C'était pas non plus une sexualité totalement débridée. Et il n'y a pas de difficulté particulière sur ce point. La raison pour laquelle Augustin parle d'un vol de poire qui paraît dérisoire, c'est parce qu'il cherche à définir ce qu'est le péché.
Vous pouvez raconter un peu ce qu'il
alors, y a. Oui, alors, si vous voulez, il y a une description moi, que je trouve très amusante et qui, du coup, reprend ce que vous dites de Russell dans son histoire de la philosophie occidentale. Il dit, je vous lis la description, « Il semble qu'avec quelques camarades de son âge, Augustin pilla le poirier d'un voisin alors qu'il n'avait pas faim et que ses parents avaient des poires meilleures à la maison. Il continua toute sa vie à considérer cela comme un acte d'une vilainie à peine croyable. » Je trouve qu'on a une bonne description de ce qu'il y a de paradoxal dans ce texte. En quoi
et là, c'est
un problème. C'est ce que dit Russell.
C'est ce que dit Russell sur
c'est la description.
D'où la troisième personne.
Voilà. C'est la description. Effectivement, c'est très ironique.
Et comme... c'est important, ça. C'est vraiment pour ses fondateurs dans la conception même de ce qu'il y a à confesser.
Oui, alors.
À dire.
Oui, alors, exactement. C'est très important. Alors, c'est un texte compliqué, mais il apparaît que, en fait, ce texte permet à Augustin de révéler qu'il existe par rapport au péché. 3 degrés de honte. Mmh. Il y a la honte morale qui dit « je fais quelque chose que je ne devrais pas faire ». Ça, c'est Augustin qui hésite à voler les poires avec ses camarades. Il y a une honte mauvaise, en un sens, qui consiste à avoir honte de ne pas faire quelque chose que la morale réprouve. Et Augustin dit « si j'ai fait ça, c'est parce que les autres m'ont dit « viens, faisons-le oui. » et j'ai eu honte de ne pas... j'ai eu honte d'avoir honte. J'ai eu honte de ne pas être impudent. Oui. Et il y a une troisième honte, c'est la honte d'Augustin qui écrit l'évêque, et qui a honte d'avoir fait cela, d'avoir finalement cédé à l'idée du groupe et d'avoir volé ses poires.
Pour les poires, c'est pour les donner à des cochons,
oui,
c'est ça ?
Oui, des poires qu'il n'a pas mangées, c'est ça. Alors, Augustin s'interroge longuement pour savoir s'il a pu vouloir faire quelque chose de mal parce que c'était mal. Mais il semble qu'il l'a plutôt fait parce que c'était un jeu collectif.
Alors justement, on va quand même écouter le texte lui-même. Alors non pas la description de l'acte du vol de poire, mais les mots qu'il utilise pour commenter et pour désigner le problème, avec la honte d'avoir honte, là que vous avez dit, c'est quand même un très très grand texte. Voici donc un extrait du deuxième livre des Confessions d'Augustin.
Qu'était-ce alors ce sentiment de mon âme ? Bien honteux, assurément. Malheur à moi qui l'éprouvais. Mais encore qu'était-il ? Le péché, qui le comprend ? C'était un rire, comme un chatouillement du cœur. Nous faisions une farce à des gens qui ne s'y attendaient pas et qui ne tenaient pas du tout à ce que nous la leur fissions. Mais pourquoi donc mon plaisir venait-il de ce que je ne l'avais pas faite tout seul ? Serait-ce encore parce que personne ne rit facilement tout seul ? C'est vrai, cela n'arrive à personne, encore que des gens, même seuls et sans témoins, se laissent parfois gagner par le rire, devant un objet sensible ou une idée par trop ridicule. Mais pour ma part, ce geste-là, tout seul, je ne l'aurais pas fait. Non, je ne l'aurais pas fait si j'avais été vraiment seul. Voilà devant toi, ô mon Dieu, le souvenir de mon âme à vif. Seul, je n'aurais pas commis ce larcin où le plaisir venait non de l'objet du larcin, mais du larcin lui-même. Seul, je n'aurais pas du tout éprouvé de plaisir, et je ne l'aurais pas fait. Oh, amitié trop ennemie, inscrutable tentation de l'esprit, soif ludique de nuire par manière de plaisanterie, envie de nuire à autrui sans désir de profit ni de vengeance. Dit-on, allons-y, faisons-le, et voilà que l'on a honte d'avoir honte.
Merci Nicolas Berger pour cette lecture très fine, je trouve, du texte d'Augustin. Anne de Saxé, les autres, alors c'est pas l'enfer au sens de Sartre, où ils m'angoissent, ils m'envahissent, mais c'est la clé du vice.
C'est l'explication, c'est une explication possible. Mais vous voyez que dans ce texte, il y a cette phrase « Le péché, qui le comprend ?» Et donc il y a quand même cette idée qu'il n'y a pas d'explication décisive, il peut y avoir des conditions pour le pratiquer. Et clairement, la condition d'une collectivité favorise l'acte mauvais. Mais la définition même du péché, ce qu'il est, personne ne peut le dire explicitement.
Mais en tout cas, c'est la grande différence avec le sexe qui... Je sais bien, peut se pratiquer aussi collectivement, mais je crois pas que ce soit comme ça que dans le christianisme on saisisse le problème qu'il pose. Et donc là, on parle d'un péché collectif, de se laisser aller, de ne pas avoir assez de force d'âme pour résister à des choses médiocres, plus que vraiment mauvaises, mais le fait de céder, ça devient vraiment mauvais. Alors que le péché de chair ou les envies sexuelles, c'est autre chose, c'est une autre racine du vice.
C'est un degré moindre de gravité, en un sens.
Moindre ?
Oui, puisque dans la sexualité, quelque chose, un profit est recherché, un plaisir. Et un plaisir en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ça n'est pas quelque chose que l'on fait gratuitement et sans raison. Ce que Augustin trouve de vraiment terrible dans ce qu'il a fait, c'est qu'il ne cherchait aucun bien, même un bien relatif, aucun bien dans cet acte-là. Il n'en a tiré, comme il le dit, aucun profit. Et c'est ce qui l'amène à poser une question.
C'est plus grave, alors.
Oui, c'est plus grave. Parce que à partir de cette analyse, la question qu'il pose, c'est... il la formule exactement comme ça. Qu'aurais-je pu ne pas faire ? Si je pouvais faire des choses qui ne m'apportaient rien, j'aurais pu... Et c'est à ce moment-là qu'il se compare à Catilina et au pire criminel de l'histoire. J'aurais pu faire... n'importe quoi, si j'étais capable de poursuivre même pas mon plaisir.
C'est magnifique, parce que finalement, il traite de la destructivité des hommes, souvent en masse, en foule, d'enjeux politiques, de ce qui peut y avoir, des crimes peut-être possiblement les plus atroces, loin de rester au problème classique de l'intime, de l'intimité, souvent réduit à cela dans le catholicisme, qui est le péché de chair, l'aveu sexuel, comme dit Foucault, en fait, il traite du problème du mal beaucoup plus profondément.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le texte vraiment a une réflexion qui dépasse largement les questions morales et de l'intimité sur la possibilité de faire le mal pour l'homme.
Qu'est-ce qui reste, d'après vous, Caroline Müller, de cet héritage augustinien complexe que nous venons là d'exposer? D'abord, dans le moment de la contre-réforme qui, face à l'essor du protestantisme avec le concile de Trente de 1545, est obligé de revenir à ses principes, à certains principes fondamentaux, à la question du bien, du mal, peut-être de la confession, vous me le direz. Il y a un moment là qui s'ouvre, qui va durer jusqu'au XVIIe, expliquez-vous. Puis après, il y a un autre moment au XIXe siècle, où la confession va revêtir une très grande importance sociale et religieuse. Qu'est-ce qui reste dans ces moments-là de la source augustinienne que nous venons d'évoquer?
Moi, je suis pas complètement spécialiste de la contre-réforme et d'Augustin, donc j'aurais du mal à peser exactement un héritage. Par contre, ce qui est très important, puisqu'on parlait du péché de chair et de la question de la sexualité, c'est que tous les textes pastoraux et théologiques, c'est-à-dire tous ceux et celles qui vont, surtout ceux qui vont chercher à comprendre quoi faire de ce péché de chair dans la pratique quotidienne de la confession, de la pastorale. Qu'est-ce qu'un curé, il va dire à une femme qui a visiblement trop peu d'enfants? Eh bien, quand on va élaborer ce qu'on doit dire aux gens, on va toujours se référer soit à Augustin, et à des réflexions sur le mariage, on en a parlé tout à l'heure, qu'Augustin a pu mener, soit à d'autres textes, et ça va donner lieu à une querelle et une mutation fondamentale qui va être de savoir comment on traite ces questions-là dans la relation aux personnes. Est-ce qu'on les traite par la répression, en cherchant le péché de chair,
en culpabilisant,
oui, en menaçant de l'enfer, de la perte de l'âme, etc. Ou est-ce qu'on accueille, on console, est-ce qu'on fait de la confession un lieu où on va accueillir le péché pour que la personne qui en ressort, elle se sente plus forte pour lutter ensuite. Et donc, il va y avoir cette sorte de nœud, puisque...
Les deux sont vrais, en fait. Ce que vous dites, c'est que il y a à la fois une volonté normative, et puis le fait qu'on puisse en parler, c'est aussi libérateur. Et donc, c'est plus complexe que juste un enjeu de répression.
Complètement. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à imaginer que la confession et la direction de conscience ont été de purs outils, d'hyper-contrôle des sexualités, etc. En fait, ce qu'on sait de la pratique pastorale, c'est-à-dire du terrain, c'est que, en fait, beaucoup de curés et de directeurs ont cherché à, en fait, accueillir et aider les gens qui se posaient des problèmes de conscience majeurs. Parce que ça voulait dire ne pas obéir aux dogmes. Ça voulait dire être perdu quand même.
C'est le 19e
siècle. Mais c'est déjà le cas au 17e siècle, en fait. Cette querelle-là et ces discussions de savoir ce qu'il faut dire aux gens, ça émerge bien avant le 19e siècle.
Alors on va y revenir avec précision, vous allez nous expliquer. Mais je suis désolée, je vais encore vous parler de Michel Foucault. Parce que lui, qui est quand même un grand penseur du pouvoir et de la répression de la sexualité, a une analyse singulière. Il considère que ce ne sont pas les actes, en fait, qui sont le vrai objet de la confession catholique, ce sont les pensées. Et que donc, là, c'est important dans une série sur l'intimité, le vrai intime problématique, c'est la racine, ce sont les pensées. Écoutez, alors je ne sais pas s'il a raison ou tort, vous nous direz dans les pratiques comment cela était vécu et pensé. Écoutez cet extrait du Gouvernement des vivants, qui est une conférence de Michel Foucault au Collège de France en 1980.
Telle est la matière première de l'examen du chrétien, la cogitatio. Comment l'examen va-t-il faire? Sur ce point, Cassien emploie une série de métaphores. La métaphore du moulin, tout d'abord. Il dit « L'esprit est donc toujours agité. Il est agité comme l'eau dans un ruisseau ou d'une rivière qui ne cesse de couler, et cette rivière, en coulant, fait tourner la roue du moulin. Et là, le meunier n'y peut rien, il ne peut rien. L'eau est agitée, l'eau court, et c'est très bien ou c'est très mal, peu importe. C'est comme ça, et c'est ça qui fait tourner le moulin. Mais le moulin, il peut moudre du bon ou du mauvais grain. On peut y mettre de l'ivraie ou on peut y mettre du blé. Et par conséquent, le rôle du moine ou le rôle de l'examen, de celui qui s'examine, c'est dans ce flux de pensée d'opérer un tri pour faire en sorte que la pensée moule du bon grain et pas du mauvais. Deuxième métaphore, c'est la métaphore du centenier, de l'officier qui, au moment où des soldats ou des candidats soldats se présentent à lui, les inspecte, les regarde, mesure un peu leur qualité, voit si l'un est fort, l'autre est faible, soupçonne si l'un est courageux, l'autre est lâche, et fait ainsi le tri entre ceux qu'il va recevoir et ceux qu'il ne va pas recevoir. Enfin, troisième métaphore, c'est celle du changeur de pièces de monnaie. On lui présente des pièces, avant de les accepter et de donner en retour d'autres pièces, il va bien sûr les examiner, les jauger. À travers ces trois métaphores, on voit bien quel est le rôle de l'examen. Ce n'est pas comme chez Sénèque, où on a à gérer comme on a pu sa journée, et puis, à la fin de la journée, on vient inspecter ce qu'on a fait de soi-même et voir si on l'a fait comme on le devait. Non. Là, il s'agit d'une activité qui s'exerce sur le flux de la pensée, au moment même où ce flux est en train de s'écouler. L'examen doit porter sur l'actualité de la pensée, et non pas rétrospectivement sur ce qui a été fait. Il s'agit de saisir la pensée au moment où elle commence à penser, la saisir à la racine, et puis tâcher le plus vite possible, immédiatement, de séparer celle que l'on doit pouvoir accueillir dans sa conscience et celle qu'il va falloir rejeter, expulser de sa conscience.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons des pratiques de confession chrétienne ce matin, dans cette série sur l'intime et sur la pudeur, avec d'ailleurs, je dois le dire, une question qui arrive là, qui va nous occuper un moment, qui est s'il faut confesser, rendre public à un tiers, à des lecteurs comme Augustin, est-ce que finalement ce n'est pas une négation de l'intime ? C'est-à-dire, il faut que tout soit extime, si je puis dire, sorti et justement il n'y a plus de vrai intime, c'est dangereux l'intime. Alors comme Foucault parle des pensées, Caroline Müller, comme le vrai foyer du vice qu'il faut travailler en confession dans le catholicisme, est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu, justement ? Si c'est plus important que les actes, c'est parce que c'est encore plus intérieur, encore plus intime, et que c'est là qu'il faut aller extimer, c'est-à-dire mettre à l'extérieur, nettoyer, laver, c'est ça ?
Alors d'abord, je dirais qu'il faudrait voir ce qu'on appelle intime, parce qu'en fait, la notion même d'intime, elle est historique, historicisable, au sens où un paysan du XIIe siècle, il n'aura pas la même définition de ce que c'est que l'intimité, l'individualité, l'intériorité, que une grande duchesse qui tient son journal intime en 1850. Donc, il faudrait d'abord définir ce qui appartient à l'intime ou pas, et les questions de péché sont pas des questions réellement intimes. Et ça, c'est difficile à comprendre pour nous parce que en contemporain, on a tendance à dire bon, nos pensées, notre conscience, notre sexualité, ce sont des domaines réservés, c'est à nous. Mais dans bien des contextes socioculturels, rien n'est à vous, au sens où tout est en
donc
enjeu.
Vous allez dans le sens du problème que j'essayais d'évoquer, oui.
Complètement.
Ce n'est pas intime, il faut justement le sortir de l'intime si jamais on avait envie de le garder pour soi.
Voilà, il n'y a pas de quant à soi dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Par contre, ce qui est clair, c'est que on a bien identifié depuis très longtemps que parler alors de sexualité, mais aussi d'orgueil, mais en gros, expliquer qu'on a eu tort, qu'on a fauté, c'est douloureux et difficile. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, la confession, c'est-à-dire... Et l'examen, saisir sa pensée et la rendre visible à un autre, se montrer comme étant fautif, c'est très humiliant. Ça implique d'obéir à l'injonction de parler. Et ça, ça a une valeur. Ça a une valeur spirituelle et morale.
Cette souffrance, là, cette humiliation.
Oui, c'est le fait de se soumettre à cette obligation de parler, de révéler des choses à son sujet, de se montrer dans ce qu'on peut avoir de plus noir ou de plus mauvais. Eh bien, ça a une valeur. Donc, en fait, si on rebondit sur le texte de Foucault, il y a en réalité deux fonctions de cet examen et de cette confession. Il y a quand même le fait d'examiner ses actes, il a pas complètement raison, puisque si vous regardez les formulaires d'examen de conscience, etc., il y a des cases à cocher ou à ne pas cocher. Donc il y a des choses très précises qu'il faut examiner. Mais la logique de l'aveu, elle a aussi une valeur en soi, dans le fait de réexaminer ses pensées et de les soumettre à un tiers.
Quelle est la différence entre un confesseur et un directeur de conscience ? Et quand est-ce que le directeur de conscience émerge dans notre histoire chrétienne occidentale ?
Alors, la confession, c'est un sacrement. Donc, ça n'a pas du tout la même, c'est pas du tout le même cadre théologique que la direction de conscience. La confession, c'est une obligation, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour tout catholique qui émerge, de se confesser au moins une fois l'an. Sinon, vous prenez un risque majeur pour votre âme. La direction de conscience, c'est une pratique qu'on va plus tirer du côté du conseil. C'est pas obligatoire.
Mais c'est chrétien.
Oui.
C'est penser religieusement.
Oui, tout à fait.
Dans la société, par exemple, c'est surtout 19e, c'est ça ?
Alors, ça émerge au 17e siècle, la généralisation de la direction de conscience laïque. Parce qu'avant, ça existait chez les moines, dans les mondes déjà spirituellement virtuoses, en fait. Mais au 17e siècle, ce qui se passe, c'est que cette pratique-là de direction spirituelle va s'élargir auprès de gens qui sont mariés, hein, qui ont une vie dans le monde, etc. Et ils vont en faire un lieu d'élévation de soi. C'est avec cette idée de dire, bon, si on veut être meilleur, faire partie de l'élite spirituelle, eh bien, on ne peut pas s'en sortir tout seul.
Donc, les pensées sont chose tellement importante, la cogitatio, dit Michel Foucault, qu'il faut du monde, là. Hein. Pas seulement le confesseur, mais un directeur de conscience, avec le risque éventuellement de créer des rivalités.
Absolument, c'est ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discerner tout seul, sur soi, ce qui se passe dans son fort interne, etc. Et donc, on va avoir un catholique qui veut vraiment progresser vite et bien, il va avoir son confesseur qui va voir à intervalles réguliers, etc. Et le directeur en plus. Et parfois, ils se contredisent. Et là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des frottements. Et donc, pour terminer sur cette sorte de chronologie, en fait, c'est une pratique qui est extrêmement contestée à partir du XVIIIe siècle, comme une pratique d'emprise.
Vous parlez du directeur, non ?
Oui, la direction de conscience.
Au moment même où elle s'installe, elle est contestée ?
Au XVIIe, elle s'installe. XVIIIe siècle, énormément de contestations parce que on l'accuse de tous les maux, en particulier dans un contexte où on va accuser les jésuites, qui sont des grands spécialistes de la direction, de se servir de leur accès aux âmes pour mener des complots politiques, pour avoir une emprise sur la conscience des femmes, des rois, etc. Donc il y a un relatif déclin.
Et qu'est-ce qui fait que ça revient au 19e ?
Alors, il faudra revenir au contexte de ce que c'est que la crise de l'Église aussi à la Révolution française. En fait, on a toute une partie des élites françaises qui va chercher à nouveau à se distinguer sur le plan moral et spirituel et qui va donc s'emparer de cette pratique-là. Et puis, il faut quand même ajouter les enjeux de genre. On a aussi beaucoup de femmes qui vont se saisir de la pratique de la direction de conscience parce qu'elles vont y voir un endroit pour discuter de problématiques intimes pour lesquelles elles n'ont pas d'autre espace.
Et ça, c'est très intéressant parce que la question des femmes semblait toujours présente dans les enjeux d'éducation aux bonnes pensées, parce que vous n'avez pas contesté l'analyse de Foucault là-dessus. C'est bien l'idée de trier, de garder le meilleur, d'être quelqu'un de bien dans ses pensées. C'est ça qu'il faut atteindre. Pour le XVIIe siècle, il y a un livre de Paul Constant très intéressant sur l'éducation des filles, s'appelle Un monde à l'usage des demoiselles, publié chez Gallimard en 1987, qui dit que l'enjeu des femmes, avec exactement le caractère équivoque que vous mentionnez, c'est important parce qu'il fallait c'est pas que les brimer, les réprimer, c'est aussi les éduquer. Et il y a eu un travail des mères supérieures, d'un monde social sur les filles, les jeunes filles au XVIIe. Finalement, c'est un moment d'éducation des femmes assez inédit. Et vous dites qu'au 19e, c'est revenu. Vous évoquez Madame d'Adhémar en 1896 qui écrit « La nouvelle éducation de la femme ». Donc à la faveur d'une approche normative quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, finalement on s'intéresse aux femmes, on les éduque et peut-être qu'on les aide aussi à se penser elles-mêmes.
Oui, alors c'est tout l'ambiguïté de ces pratiques de soi, que ce soit l'écriture du journal intime, la direction de conscience, parce que dans la direction de conscience, on écrit à son directeur des états de soi. Donc ça veut dire qu'on est très tranquille dans son cabinet et qu'on écrit une lettre où on parle de soi. Et donc, vous voyez bien ce que ça ouvre comme possibilité en termes de construction des individus. Donc, même si vous êtes une femme et qu'on vous a appris la modestie, l'oubli de soi, etc., eh bien, quand vous êtes devant le carré de papier et que vous avez le droit de vous raconter, on peut se dire que de temps à autre, on oublie pourquoi on se raconte. Et le cadre, en fait, spirituel, normatif, peut passer au second plan. Et c'est la grande guerre des directeurs de conscience que de rappeler qu'on ne vient pas en direction ou en confession pour parler de soi, mais pour essayer de s'améliorer et
oui,
de progresser.
Sans orgueil. La cogitatio, voilà. Voir comment elle fonctionne, estimer l'intime, hein, le rendre voilà, comme un objet qu'on analyse, mais pas pour l'orgueil, pour son contraire, comme vous l'avez l'une et l'autre dit dans la première partie de l'émission. Je voudrais que vous me parliez de la cogitatio pour Augustin, s'il vous plaît, Anne de Saxe. Est-ce que lui aussi considère que c'est la clé, c'est là-dessus qu'il faut travailler, bien plus que simplement l'examen des actes?
Oui, alors moi je pense que le texte de Foucault fonctionne assez bien, même s'il parle de Jean Cassien, qui est un auteur monastique et un peu plus tardif. Mais
moine du 4e, 5e siècle, oui.
C'est Augustin le premier qui va réfléchir au danger de la cogitation. Un autre nom qu'il utilise et qui est synonyme dans ce cadre, c'est la suggestion. C'est-à-dire le problème des pensées qui nous surviennent et qui ne sont pas forcément des bonnes pensées. En fait, le problème, c'est de savoir à partir de quand on estime qu'on a commencé à être dans une mauvaise pratique ou à faire quelque chose de mal. Est-ce que c'est avant l'acte? Ou est-ce que penser à quelque chose de mal est déjà du
oui.
mal? Alors, en fait, la question, c'est un débat qui va prendre une grande importance au XIIe siècle.
Ah.
Et notamment, un auteur qui le met bien en valeur, ce débat, c'est Pierre Abélard, puisque lui propose de situer le péché non pas dans l'acte, au fond, très peu d'auteurs sont convaincus que c'est l'acte qui fait le péché, mais dans le consentement à l'idée mauvaise. Et donc, dans cette discussion, il considère que la suggestion elle-même n'est pas forcément le lieu du péché. Il y a véritablement péché à partir du moment où on consent à la suggestion ou à l'idée. Mais tous les auteurs ne sont pas convaincus par cela, par l'idée que c'est simplement le consentement. Parce qu'il y a le problème de séparer trop radicalement en soi la volonté et puis toutes les émotions qui accompagnent la volonté et qui fait que l'on veut quelque chose de mauvais.
Quand il est devenu chrétien, Augustin, il y a une scène très importante, j'aimerais que vous la racontiez, qui est racontée au livre 8 des Confessions, d'ailleurs dont je ne suis pas sûre de comprendre le détail, le fameux tollé légué. Expliquez-nous. Parce que ça a à voir avec les pensées, si je ne me trompe pas, mais je voudrais qu'on précise.
Oui, alors bon, c'est un texte, là encore, c'est un texte complexe. Alors, le scénario du texte, c'est qu'Augustin, donc, et chez lui, à Milan, avec son ami, vivant en sorte de colocation des célibataires. Et
C'est célibataire parce qu'il a quitté sa femme, oui. Ah, pardon, sa concubine en fait, de Carthage.
Il a répudié sa concubine
d'accord.
pour des raisons sociales, parce que sa mère voulait qu'il fasse un meilleur mariage, qu'il fasse un mariage avec une personne d'une meilleure famille pour sa carrière. Et donc cédant à sa mère, la relation entre Augustin et sa mère, c'est quelque chose de très complexe. Et donc cédant aux instances de sa mère, il a répudié sa concubine. Et à la même époque, il a découvert la philosophie de Platon et cette philosophie le tourne vers le christianisme de son enfance. Et il vit dans un milieu de néo-platoniciens et chrétiens, assez intellectuels. Et certains de ses amis lui racontent des récits de conversion. Et entendant que d'autres ont réussi à décider de vivre de façon complètement religieuse, il se désespère de ne pas y parvenir lui-même. Et donc il se décrit dans le jardin de leur maison, tourmenté en se disant, voilà, les autres y arrivent, pourquoi pas moi ? Et pourquoi est-ce que je retarde sans cesse et je me dis, demain je le ferai, et toujours demain. Et donc il s'en va pleurer. Alors vraiment avec une charge émotive extrêmement forte. Il pleure, il s'arrache les cheveux, enfin, une forme de désespoir. Et à ce moment-là, il est sous un figuier, qui est un arbre éminemment symbolique. Et à ce moment-là, sous le figuier, il entend une voix enfantine, dit le texte, qui lui dit « Prends et lis, tolé, légué ». Et il se demande si ce serait une comptine enfantine, s'il y aurait des enfants dans la maison d'à côté qui chanteraient une comptine. Mais il dit « Je ne connais pas cette comptine ». Donc c'est peut-être une voix mystérieuse, prémonition. Et il prend le livre qui est à côté de lui, c'est la Bible. Et il lit une phrase de Saint Paul qui dit « Cessez de vivre selon vos mauvaises mœurs et changez vos habitudes ».
Donc lire, c'est penser. Lire, c'est la cogitation. Donc c'est bien ce que dit cette scène, que c'est là que ça va se passer.
En fait, alors, oui, mais finalement, les pensées, Augustin les a déjà. La nouveauté que souligne le texte, c'est plutôt que le problème de la décision n'est pas un problème qui oppose la raison et la volonté. Parce qu'en fait, Augustin dit, moi, la philosophie chrétienne, je l'avais déjà, j'étais déjà convaincue, j'avais déjà tout compris, mais je ne voulais pas. Et Augustin souligne qu'il peut y avoir, à l'intérieur même de la volonté, une opposition. Donc notre volonté est brisée, divisée en elle-même.
Alors au XIXe siècle, penser, raconter ses mauvaises pensées, notamment pour les femmes, c'est au fond assez équivoque. Ça réprime des choses et ça libère de la parole, voire même la possibilité de certains actes. Écoutez la lettre que vous nous avez très gentiment indiquée, et très pertinemment indiquée, Caroline Muller, la lettre d'une certaine Henriette L. à son directeur de conscience, je crois que c'est au tout début du XXe siècle, en 1907. Voici.
Mon révérend père, je viens vous demander un conseil. Je suis bien ennuyée en ce moment-ci à cause de monsieur. Vous savez que deux médecins avaient dit que nous ne devions plus avoir d'enfants. Monsieur va mieux et il me tourmente. Je lui refuse, parce que je crois qu'il est de ma conscience de le faire. Mais il m'en veut. Il ne croit pas ce qu'ont dit les médecins, ce que je lui ai répété le tenant de mon père. Maurice me fait de la peine et il a été jusqu'à me dire qu'il finirait par aller trouver des bonnes. Que dois-je faire? Je ne fais que me tourmenter. Mon père m'a absolument dit, s'il m'en souvient bien, que les enfants que j'aurais ne seraient pas aussi forts que les enfants sains. Et puis les scrupules me prennent, je ne sais pas comment m'en sortir. Vous voyez, mon père, que je ne suis guère heureuse, et bien souvent le courage me manque. Vous savez tout ce qui me fait souffrir. J'espère que vous pourrez me remonter un peu. J'espère, mon révérend père, que vous allez bien. Voudriez-vous nous voir à Lausanne, comme vous l'aviez dit à monsieur ? Je quitte ma sœur dans 2 jours, pour aller chez ma belle-mère. Veuillez agréer, mon révérend père, mes sentiments très respectueux.
Lecture par Carla Michel de notre équipe d'une lettre d'Henriette L. à son directeur de conscience en 1907. Pourquoi est-elle très intéressante, cette lettre, Caroline Muller, selon vous?
Alors, c'est une lettre qui est très intéressante parce qu'elle montre bien comment la direction de conscience, donc cette ouverture d'un espace de discussion, peut permettre de traiter, d'aborder des sujets qu'on ne peut pas aborder ailleurs. Et donc là, en particulier, la pression sur la sexualité conjugale. Alors, d'un côté, on voit le mari qui sollicite sa femme et la femme répond sur le mode du dogme. On n'a pas de sexualité s'il n'y a pas de possibilité de procréer et d'avoir des enfants en bonne santé. Donc là, vous voyez que quel que soit le fond du problème, à savoir est-ce qu'elle a envie ou pas d'avoir cette sexualité, en fait, elle va chercher le directeur de conscience et le dogme pour permettre la désobéissance à son mari.
Oui, mais en fait, elle met en concurrence deux
Exactement.
Hommes, au passage, le médecin et le confesseur.
Le directeur.
Parce que le médecin pense qu'elle ne doit pas retomber enceinte vite.
Exactement, parce qu'en fait, elle a déjà eu plusieurs enfants et ça ne s'est pas très bien passé. Mmh. Et donc ça, c'est un peu une lettre qui, pour moi, est assez classique dans ce qu'on voit dans les sources. C'est que les femmes utilisent la multiplicité des autorités masculines qui pèsent sur elles, pour les mettre en concurrence les unes avec les autres.
Ce qui a peut-être d'émancipateur, j'ai quelques doutes, mais c'est de mettre en concurrence les dogmes et les autorités, montrer qu'elles sont contradictoires. Et donc, mais je ne suis pas sûre que cette dame en arrive à penser par elle-même ce qu'il faut faire. Elle est juste désemparée.
Oui, mais au fond, si vous regardez l'ensemble de la correspondance, elle finit par désobéir assez nettement sur beaucoup de sujets. Alors que on aurait pu se dire, si on regarde ça de très loin, de l'extérieur, on se dit, bon, bah, le directeur va sans cesse la rappeler à son devoir. Et en fait, ce n'est pas ce qu'il fait.
Est-il vrai que ça a inquiété beaucoup d'hommes, la présence des confesseurs et directeurs de conscience, parce qu'on ne sait jamais, ces dames, à force d'ailleurs de mettre tous ces hommes en concurrence et tous ces dogmes, pourraient finir par penser par elles-mêmes. Et Jules Michelet notamment, l'historien, catholique d'ailleurs, même s'il a évolué,
oui.
d'origine, ouais, non, mais c'est toujours c'est comme Foucault, hein, il vient de là, après ils évoluent. Hein. Le prêtre, la femme et la famille, c'est son livre de 1861, évoque ce problème du côté même insupportable de ces présences masculines, les maris. Comment font-ils pour supporter cela auprès de leurs femmes ?
Oui, Michelet met en scène hein, ce moment de la vie où le mari croise le confesseur de sa femme et le confesseur ricane au bon souvenir de ce qu'on lui a raconté la veille, etc. Et effectivement, c'est un sujet majeur qui est aussi un des motifs importants de l'anticléricalisme hein, et de la critique de la confession, que de dire que si l'on avoue ses péchés et que l'on dévoile sa conscience et son intimité à quelqu'un d'autre, alors c'est un terrain de minage de l'autorité du mari. Et donc, vous voyez, quand je vous disais quand on met les autorités en concurrence, eh bien, au bout d'un moment, on arrive à trouver un espace. C'est précisément cela. Et c'est pour ça que ça inquiète autant Michelet, mais bien d'autres avec lui. Parce qu'en fait, ça porte tout de même une forme de subversion. Parce que, pour les femmes du 19e siècle, en particulier dans les élites, il n'y a pas d'autre espace. Et ça, il faut le retenir.
I dreamed I saw Saint Augustine alive as you or me. Tearing through these quarters in the utmost misery. With a blanket underneath his arm and a coat of solid gold. Searching for those very souls whom already have been sold. Arise, arise, he cried so loud. Said complaint. No martyr is among ye now whom you can call your own. So go on your way accordingly, but know you're not alone.
Bob Dylan, vous l'aurez peut-être reconnu, I saw Saint Augustine. J'ai rêvé que j'avais rencontré Saint Augustin. Alors moi, je la connaissais pas cette chanson, mais elle était inévitable une fois qu'on l'avait touchée du doigt pour cette émission. C'est une chanson de 1967. Merci beaucoup Anne de Saxé et Caroline Muller pour vos analyses ce matin. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la passion de la vérité. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi la vérité demande-t-elle du courage. Dans un de ses derniers cours au Collège de France, Michel Foucault a traité du courage de la vérité. C'est même le titre de ce livre, de ce recueil, paru après sa mort, de ce cours de 1983-1984, intitulé « Le courage de la vérité ». Mais il y a là un paradoxe. Pourquoi la vérité demanderait-elle du courage ? La vérité semble demander simplement un effort, peut-être un travail de connaissance. Il faut en effet démontrer un énoncé pour pouvoir assumer sa vérité. Il faut démontrer, sur les bases des définitions mathématiques, pardon, que 2 et 2 font 4. Il faut démontrer qu'il neige quand je dis qu'il neige, ou alors qu'il ne neige pas. Et la réfutation fait aussi partie du travail, de la science, de la connaissance, de la vérité, mais dans un rapport, pourrait-on dire, de l'esprit humain et de ses principes au réel, avec l'effort interhumain de la contradiction, de la vérification, de la réfutation. Mais là, il semble entrer de l'effort, du travail, de la rigueur, parfois peut-être en effet un peu de courage, s'il faut aller au fond des océans ou au sommet des montagnes pour observer la météo qui permettra de sauver la planète. Et là, il y a un courage physique comme médiation vers l'effort de la connaissance scientifique, mais ça n'est pas un courage, au fond, interhumain dans une bataille entre les humains. La vérité semble être, au contraire, ce qui nous sort du domaine de la guerre entre les humains, du domaine qui exige entre nous du courage ou qui suppose de la lâcheté ou de l'obéissance ou de la justice. Et en vérité, cela n'est pas le cas, car la vérité n'est pas seulement un discours sur le monde, même si elle l'est d'abord, elle est aussi un discours entre les humains, avec des enjeux de vie et de mort, avec des enjeux qui relèvent des relations éthiques et politiques entre les humains. Si la vérité est que tu mens, dois-je te la dire ? Ou bien cela m'amène-t-il un risque ? Le risque que, selon ta force, ta puissance, toi individu, ou toi tyran ou dictateur, tu t'en prennes à moi. Si la vérité exige de dire quelque chose qui va te faire peur, qui va te déplaire, comment l'assumer ? Cela suppose en effet, outre le travail scientifique de la connaissance, un travail relationnel sur les conditions éthiques et politiques et sociales de réception entre les humains de ce discours sur le monde. La vérité entre donc toujours aussi dans les relations entre les humains pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi, d'une certaine façon, Platon en a posé d'emblée tous les critères entre l'apologie de Socrate et la République. D'un côté, avec cette peur de la démocratie qui est habitée par des passions contradictoires et qui les assume, même qui assume cette diversité d'opinions à travers lesquelles le discours vrai peut s'affronter au discours puissant, mensonger, celui qui flatte nos plaisirs, celui qui flatte nos peurs, ou celui au contraire qui se risque à dire la vérité pour nous sauver contre les vrais dangers. À ce discours de la société que Platon redoute, il oppose une cité idéale où la philosophie serait reine, c'est-à-dire où la vérité serait au pouvoir contre toutes les illusions, mais il sait lui-même que cela n'est pas possible. On n'échappera donc pas à ce courage de la vérité, à ce courage de maintenir le discours vrai face et contre les discours qui s'appuient sur les passions négatives, sur les passions de peur ou de haine, parce que la vérité doit aussi ouvrir ce terrain neutre entre les humains qui dépasse le terrain éthique et politique, mais elle doit l'ouvrir de manière éthique et politique. Pour éviter qu'il y ait ce courage des héros de la vérité, des martyrs de la vérité, de Socrate aux grands dissidents du XXe siècle et encore d'aujourd'hui, il faut donc des institutions qui protègent de la vérité, qui nous dispensent de défendre la vérité au péril de la vie.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.